Gloire à Dieu. J'espère que vous n'avez pas oublié. On est en train d'étudier cette thématique qui est la repentance. On étudie actuellement une thématique pour les quelques mercredis à venir, si Dieu veut, qui c'est la repentance. Hein? Je disais quand je débutais cette série que c'est une thématique fondamentale, hein, importante pour la doctrine, hein, pour la doctrine chrétienne, protestante, évangélique. Et c'est très important. Tout passe par la repentance dans la grâce. Hein. C'est la base. Alors oui, c'est important. On est en train de regarder la signification de la repentance. Les contours, hein, d'une repentance authentique, d'une vraie repentance, une repentance spirituelle, une repentance évangélique, une repentance biblique, hein. C'est bien important de ne pas oublier ce qu'on est en train de faire, hein. J'ai commencé avec les caractéristiques de la repentance biblique. C'est ça carrément. La repentance évangélique. J'étais à regarder il y a 2 mercredis. Il y a ce qui caractérise, hein, la repentance. Le premier trait de caractère que j'ai esquissé dans la congrégation de la repentance, c'est un changement de mentalité. Et la repentance se définit par un changement de mentalité. J'ai élaboré amplement sur ce que cela veut dire, un changement de mentalité. Hein? Je n'y reviendrai pas pour ce soir. Je veux simplement vous le rappeler. Un des exemples que j'avais considéré, c'était l'apôtre Paul. Hein. On a vu l'apôtre Paul a procédé par la grâce de Dieu à un changement de mentalité. Hein. Le Seigneur lui a fait la grâce de procéder à une transformation. Sa vision de la vie, sa vision de l'Église, sa vision du plan de Dieu, du projet de Dieu, sa vision de Dieu, sa vision de Jésus-Christ, tout a été transformé, tout a été changé du tout au tout. Mes frères et mes sœurs, on avait aussi à regarder un deuxième trait de caractère, ou bien une deuxième caractéristique de la repentance chrétienne, évangélique, protestante, qui est un sentiment de tristesse. J'ai expliqué dans la congrégation que toute vraie repentance est caractérisée par un sentiment de tristesse, hein? Un sentiment de chagrin, hein? Une espèce de contrition, hein? Et même une espèce de honte. Hein, une honte positive, hein, une honte positive. Lui, je l'avais pas complété, ok? Et je me suis réécouté encore et je sais où est-ce que j'étais arrivé. Alors, on va revenir sur cet élément-là, sur ce deuxième élément caractéristique d'une vraie repentance et rappeler un peu ce que j'avais dit et poursuivre avec cet élément-là. Je disais que quand nous parlons de tristesse, de chagrin, nous parlons de regret, nous parlons de remords. Et qui vient de quoi? Qui vient d'un sentiment de culpabilité. Mais ce n'est pas un sentiment de culpabilité négatif, là. Hein? C'est un sentiment de culpabilité comme quoi On regrette d'avoir été coupable de rejeter Dieu. C'est à peu près ça. On regrette d'avoir été coupable et hein, on est désolé. On est dans la désolation, dans la sainte désolation d'avoir résisté à Dieu aussi longtemps ou trop longtemps, d'avoir méconnu Dieu, d'avoir mal compris Dieu. Et c'est ça qui amène une tristesse et chez nous. Ce n'est pas une tristesse paralysante, une tristesse accablante qui nous empêche de vivre ou de travailler ou de servir le Seigneur. Mais c'est plutôt, on se demande, mais on se dit que cela n'aurait pas dû arriver. Dieu, on est dans la grâce, on se sait sauver, on reconnaît que le Seigneur nous accepte, que c'est fini, l'inimitié, le conflit, la chicane entre nous et Dieu. On reconnaît que c'est terminé, mais qu'à cela ne tienne, mais on n'est pas d'accord du fait que ça a été arrivé. Et c'est de cette sainte tristesse, de ce saint chagrin, eh bien, qu'il est question quand on parle, eh bien, de la repentance. Une sainte tristesse, un saint chagrin qui vient du fait que on a maintenant les yeux ouverts. Les écailles nous sont tombées des yeux. On est capable de comprendre maintenant. On réalise à quel point, eh bien, on a été eh bien, mal habile dans le choix qu'on avait fait de rejeter Dieu. Et alors, parce qu'on a la connaissance, on a la conscience de qui est Dieu et aussi de qui nous sommes en tant que pécheurs, et c'est alors que nous disons, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous avons fait d'avoir résisté à un tel Dieu si longtemps? C'est ça le sens du chagrin, du remords, du regret, de la désolation. N'oubliez pas, j'ai choisi plusieurs thèmes pour vous permettre de bien comprendre et l'enseignement que Dieu a pour vous aujourd'hui. Maintenant, nous allons continuer avec cet élément-là pour dire ceci, à savoir que dans l'enseignement de Jésus, on voit cette humilité-là. On voit cette tristesse, ce chagrin. On le voit. Ce saint sentiment de culpabilité qui accompagne la repentance, on le voit dans l'enseignement du Christ et aussi on le voit dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Hein? Je pourrais attirer votre attention sur Luc 18. Dans Luc 18, il y a nous avons une parabole qui met en scène un pharisien et un publicain. Le pharisien, c'est quelqu'un, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit juste, pour songer. C'est quelqu'un qui a un trop-plein de lui-même hein, et qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu pour sa justification, pas oublier. Le publicain, lui, eh bien, il ne voit pas les choses comme ça. Alors, regardez ce que le Christ explique dans Matthieu 18, versets 13 à 14, pour comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de, eh bien, un sentiment de culpabilité, la sainte tristesse, le saint chagrin, la sainte désolation, le saint remords qui accompagne la repentance. C'est quand le Christ dit, le publicain se tenait à distance. Déjà, il se tenait à distance. Il ne pouvait pas s'approcher. Et le Christ dit, il n'avait même pas, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, tellement il se sent petit, tellement il se sent pécheur. Voyez-vous? Et tellement il se sent indigne. C'est de ça qu'il est question. Voilà de quoi on parle. OK? On est là? Ouais. Et tellement il se sent indigne. Mais il se frappait la poitrine en guise de désolation, hein, en disant, Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Voilà. Donc ici, nous avons la contrition, nous avons l'humilité, nous avons la confession également, nous avons quelqu'un qui comprend, eh bien, qui a conscience de son état. de qui il est, de sa personne et de la personne de Dieu. Quelqu'un qui comprend ce que c'est que la justice de Dieu. Et voilà pour le publicain. Et il y a ce que Jésus dit de lui, hein, c'est ceci. Je vous le dis, dans le même passage, et Luc 18, versets 13 à 14, et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié. Donc, il trouve miséricorde, il trouve pardon. Il trouve la justification plutôt que l'autre. Donc, l'autre, vous le connaissez très bien, j'imagine. L'autre, c'est qui? Eh bien, c'est celui-là qui dit, ô Dieu, je te rends grâce, verset 11, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc, lui, il est dans la fierté lui-même. Tandis que l'autre est dans l'abaissement. Hein. L'autre est en pleine conscience de son indignité. Lui, il est ailleurs. Hein. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Bon, voilà. Donc, vous aurez compris le parallèle entre les deux hommes. Mais le parallèle entre les deux, entre ces deux personnalités, ou bien entre ces deux personnages, eh bien, c'est qu'il y en a qui a conscience de sa nature, de son état de péché et de pécheur, et un autre qui n'en a pas conscience. Et à part le fait même, celui qui en a conscience, il demande grâce, il demande pardon, il demande faveur, et l'autre, lui, ne le fait pas. Donc, on comprend. Et là, j'ai nommé le Christ, j'ai nommé aussi l'apôtre Paul, en disant que le chagrin, la désolation, la tristesse, comme élément qui accompagne toute vraie repentance, est dans l'enseignement des deux, c'est-à-dire et de Paul et du Christ. Alors, j'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple avec le Christ et on y reviendra d'ailleurs. Je vais donner un exemple maintenant avec l'apôtre Paul. Voici ce que Paul dit aux frères et sœurs de Corinthe. Et je veux, 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. Voici ce que Paul enseigne. Paul dit aux frères et sœurs de Corinthe ceci. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, hein, mais de ce que votre tristesse, ça c'est important, de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Hein, car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, c'est Paul qui poursuit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Voilà. Donc, Paul et Christ s'associent pour enseigner que toute vraie repentance s'accompagne d'une sainte tristesse. Les frères et sœurs de Corinthe étaient attristés parce qu'ils ont entendu l'enseignement de Paul, hein, ils ont été conscients, eh bien, de leur mauvais choix, de leur mauvaise direction, de leur mauvaise orientation, de leur mauvaise décision. Ils sont attristés. Mais Paul reconnaît que finalement, cette église charnelle, cette église orgueilleuse, sa tristesse, eh bien, sa sainte tristesse l'a amené à la repentance. Donc, revenons au collecteur d'impôts une dernière fois. Et je dis que le collecteur d'impôts, on a vu que il a accompagné, on a vu que le chagrin et le remords, l'humilité, l'abaissement accompagnent sa confession, sa repentance, parce qu'il est conscient, n'oubliez pas, de son état de pécheur. C'est ça qui fait l'efficacité de la tristesse. Parce que la tristesse, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas triste pour être triste. On est triste pour aller quelque part, pour aller à la repentance, à la confession, à la conversion. Voilà pourquoi c'est important. Alors, ça, c'était pour le collecteur d'impôts. Je vous avais promis d'y revenir. Et l'église de Corinthe, elle, cette église qui était charnelle, eh bien, elle venait de prendre conscience de son orgueil, de sa charnalité. Et alors, la tristesse de l'église de Corinthe était une tristesse appropriée, hein, parce que c'était une tristesse selon Dieu. Et Paul évalue leur tristesse. Paul sait d'où vient leur tristesse et à quoi mène leur tristesse. Et il le dit très clairement. Il qualifie leur tristesse d'une tristesse selon Dieu et d'une tristesse qui produit la repentance. Et c'était une bonne tristesse. L'apôtre Jacques parlait de ça aussi. L'apôtre Jacques parlait de ça aussi. Ce n'est pas toute tristesse qui c'est mauvais bagaille. Il y a de bonnes tristesses, il y a de saintes tristesses dans ce chapitre-là, hein, dans ce que nous sommes en train de parler là. C'est très, très, très important. L'écriture est très abondante à ce sujet-là. Dans les deux cas, la tristesse, le remords, le regret, le chagrin, même la honte, eh bien, je dis, n'était pas une fin en soi, mais c'était plutôt un moyen d'atteindre une fin très élevée. Et cette fin-là, c'est une fin grande, glorieuse, qui est la justification dans le cas du publicain, qui est la repentance, hein, dans le cas des frères et sœurs de Corinthe. Il existe, tout ça c'est pour nous faire comprendre que dans la vie, il existe une tristesse selon le monde. Hein? Il existe une tristesse selon le monde. Cette tristesse est une tristesse sans foi, sans conscience de Dieu, de sa personne, de son projet, de son plan de salut. Une tristesse sans foi. Et cette tristesse sans foi, cette tristesse qui écarte Dieu, qui ne tient pas compte de Dieu, cette tristesse mène à la mort, de ce que nous comprenons de l'Écriture. C'est très, 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 très présent dans l'Écriture. Je me suis limité à ces deux références-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Cette tristesse, selon le monde, conduit à la mort. Hein? Et toutes sortes de morts, hein? Que ce soit la mort spirituelle, que ce soit et la mort physique, et la mort éternelle, toutes sortes de morts, hein? Dans le cas de Judas, on a vu que la tristesse, selon le monde, a conduit à la mort. Hein? La tristesse, selon le monde, a conduit à la mort. Mais la sainte tristesse, la tristesse spirituelle, eh bien, celle qui accompagne la repentance, elle conduit à la vie. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. La tristesse selon Dieu amène au salut, à la vie et à frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que Dieu approuve la tristesse selon Dieu, la tristesse qui mène à la vie. Dieu approuve cette tristesse-là parce que, comme je dis, cette tristesse a un but élevé. La fin est élevée. Alors Dieu prend plaisir à ce genre de tristesse. Et dire que Dieu prend plaisir à la tristesse qui accompagne la repentance, la tristesse qui mène à la vie, eh bien, ce n'est pas juste une affirmation. C'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit, dit David au psaume 51, verset 19. Le Dieu que nous servons ne méprise pas un cœur brisé, c'est tristesse, hein? Un cœur brisé et contrit. Hein, un cœur défait, hein, un cœur accablé, attristé d'avoir offensé Dieu. Dieu ne méprise pas cela. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Hein, vous récitez ça souvent. Et Dieu porte un regard favorable sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole, selon Ésaïe 66, le verset 2b. On est toujours dans le même contexte d'abattement ou de tristesse selon Dieu et en signe de repentance. Et notre Dieu habite dans un lieu saint. Il habite dans un lieu très élevé, nous le savons, mais en même temps, notre Dieu est avec les cœurs brisés. Et notre Dieu habite dans un lieu saint et très élevé, mais en même temps, il est avec les cœurs contrits, les esprits humiliés. Il est avec les esprits abattus. Il est avec les esprits attristés d'une sainte tristesse. Et pour les relever, pour les consoler, pour les ranimer, pour les fortifier, pour les encourager à faire ça, les bien-aimés. Et incidemment, le Christ dira, Matthieu 5, verset 3 à 4, vous connaissez ce texte, on l'a étudié, heureux les affligés, car ils seront consolés. Lorsque nous sommes dans une situation de sainte tristesse, hein, lorsque nous sommes dans une situation de sainte tristesse, le Seigneur le sait, il nous accompagne là-dedans. Il fait en sorte que nous ne restions pas toute la vie chrétienne là-dedans, toute la vie durant là-dedans. Hein, c'est toujours une tristesse qui est passagère, qui est momentanée. Hein. Ça ne dure pas toute la vie, que ce soit dans le salut ou au salut. Que ce soit dans le salut ou au salut, c'est-à-dire que ce soit pendant déjà chrétien ou l'aime ta vie chrétien. Hein? Si le péché m'a tristé, me sentir fait un faux pas, me fait bon Dieu dans mal, me repentir moins, avec toute sincérité de cœur que ça a demandé, et à bon Dieu consoler. Bon Dieu prend pitié pour moi. Dans longanimité dit, elle est pardonnée, elle est relevée. Et nous y reviendrons. C'est très important de comprendre cela. Ça se fait en rentrant au salut et en étant dans le salut. Et il y a toujours une question de repentance et de tristesse aussi qui accompagne eh bien, la repentance. Donc voilà pour ce deuxième élément caractéristique de la repentance biblique, la repentance et à spirituel qui est eh bien une tristesse un sentiment de tristesse. Donc n'oublions pas, on vient de regarder comme deuxième élément de caractère pour la repentance authentique un sentiment de tristesse, tandis que mercredi dernier, comme je le disais tout à l'heure, on avait regardé eh bien un changement radical de mentalité. Maintenant, on va regarder un troisième élément caractéristique de la repentance biblique, de la repentance authentique, mes frères et mes sœurs. Cet élément, c'est un troisième, comme je l'ai dit, c'est la reconnaissance personnelle et la confession de ses péchés. Je les mets ensemble. Hein? Je les mets ensemble. La reconnaissance ou bien la conscience personnelle ou la reconnaissance personnelle, c'est la même chose, et la confession de ses péchés. La repentance biblique n'implique pas seulement un changement radical de mentalité. Hein? La repentance biblique n'implique pas seulement un sentiment de tristesse, une tristesse de cœur, ou bien une tristesse selon Dieu. Elle amène également la conscience personnelle, la reconnaissance personnelle et la confession sincère de ses péchés. Toute vraie repentance s'accompagne d'une confession et d'une reconnaissance de ses péchés. Sans quoi, il n'y a pas de repentance. Sans quoi, on ne peut pas parler de repentance. parler de repentance et accompagné par une reconnaissance ou bien une conscience intime à une conscience intime de son péché, revient à dire que l'homme pécheur se tait devant Dieu. On a un début, hein, dans Luc 18. On l'a dans Luc 18 aussi, hein. On l'a avec le publicain aussi, hein. On va regarder d'autres textes. Mais on l'a avec le publicain. Il s'agit pour l'homme, pour le pécheur, de se taire devant Dieu. Hey, gloire à Dieu. On se tait devant Dieu. On se tait devant Dieu parce que on n'a rien à dire. On plaide coupable. Gloire à notre Dieu. On plaide coupable en considérant et en étant conscient de ses propres péchés devant Dieu d'abord. Et ensuite, en faisant connaître à Dieu son péché et en confessant son iniquité au Seigneur. Ouais, de machallah, je prends conscience, sans quoi il n'y a pas de salut. Sans quoi il n'y a pas de repentance. Je prends conscience du péché. Je le dis à Dieu, publicain en fait. Il est là-bas, il est dans Luc 18 là. D'abord, je prends conscience de mon péché. Je dis mon péché à Dieu. Donc, on a confession, non? Je le dis à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, je demande faveur à Dieu. Je demande grâce à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Un peu comme David, au psaume 32, le verset 5. Vous songez, dans notre psaume pour aimer encore. À l'instar de David, frères et sœurs, mes bien-aimés, le pécheur est contraint de dire. Le pécheur est poussé à dire. Le pécheur est amené à dire. Le pécheur est motivé à dire. J'ai péché contre toi seul, gloire à notre Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ça, pasteur t'a appelé tout à l'heure à la 1. On reconnaît son péché. On a conscience de son état de péché et de pécheur. Gloire à Dieu. On le dit à Dieu. Deuxièmement, deuxième étape. Troisième étape, on demande faveur. On demande grâce à Dieu. J'ai péché contre toi seul. Un, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Deux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, le verset 6. Le prophète Osée décrit l'attitude du pécheur repentant. En Osée 14, le verset 2, quand il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, gloire à Dieu. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu du taureau l'hommage de nos lèvres. Et il y a un soldat qui a commencé, qui a prié tout à l'heure avec ce psaume, avec ce texte, 1 Jean 1er verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. On commence à dire à Dieu que nous avons péché et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi le publicain descend, dit-il, justifié et non pas le pharisien, mais parce que c'est lui qui a fait cette démarche. Et nous trouvons en 1 Jean 8, verset, en 1 Jean 1, verset 8 à 10, c'est lui qui a fait cette démarche-là. La démarche que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est lui qui a consenti cette démarche. Alors, c'est lui qui est descendu justifié dans sa maison. Frères et sœurs, l'une des plus grandes preuves de la véritable conversion ou de la véritable repentance, ce n'est pas la perfection. C'est faux. Il n'y a pas un pasteur qui a dit ça. De toute façon, au compte Bibou, on n'est plus autant de l'Église catholique, côté c'est seul père qui a Bible. C'est pour là où tu as Bible dans mais ou bien Bible dans mon tout. Ou c'est souverain sacrificateur tout. Hein? L'une des plus grandes preuves de la véritable conversion, ce n'est pas la perfection. Hein? Ce n'est pas l'absence de péché, comme certains le croient à tort. C'est pas ça. L'une des véritables preuves de conversion, l'une des véritables preuves de repentance, c'est d'être sensible au péché. Dans les abdoulas là, pas oublier. C'est d'être sensible au péché, d'être alerte au péché. D'être allergique au péché. D'être capable de reconnaître son péché. D'être capable d'identifier le péché. Et par le fait même, par le fait même, d'être capable d'être transparent avec Dieu concernant son propre péché, concernant son propre état de péché. Et ultimement, d'être capable de le confesser à Dieu. Pas oublier, non? L'une des plus grandes preuves de conversion, de repentance, de chrétienté, de maturité spirituelle, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas d'être sans péché, comme certains le croient à tort. C'est plutôt d'être sensible au péché. C'est plutôt d'être transparent à Dieu en lui disant son péché. Et d'être transparent avec lui en lui demandant grâce pour le péché, frères et sœurs. Donc voilà pour le troisième élément caractéristique, eh bien, de la repentance biblique. N'oubliez pas, c'est la conscience ou bien la reconnaissance personnelle de son péché et de la confession de son péché. Gloire à Dieu. On est rendu maintenant à un quatrième élément caractéristique de la repentance chrétienne. C'est le détournement honnête, et sincère du péché. Le détournement honnête et sincère du péché. C'est-à-dire se détourner du péché. Le fait de se détourner du péché. On ne peut pas parler les mêmes bagailles là, non là. On ne peut pas parler les mêmes bagailles, non là. On suit bien là. Un changement de mentalité. Donc, celui qui se repent, l'homme repentant, la femme repentant, c'est celui qui a opérer un changement de mentalité, de vision, en tout cas, ce n'est pas lui-même qui fait, qui voit que le Saint-Esprit de Dieu fait ça à la Kaélie, il collabore avec Saint-Esprit pour que ça arrive, pour que ça passe, évidemment. Il change de mentalité, change de vision de la vie. Il va la vie même genre encore. Il n'y a rien, il voit même genre encore. Il voit tout le bagage différemment, selon Dieu maintenant. Il a fini, il a dit bye-bye au monde, il a cessé de voir le monde comme lui-même, comme le monde le voit. Pour voir le monde comme Dieu le voit. Le monde inclut ni ça bien ni ça mal, ou est tout différemment. Une nouvelle conception de la famille, une nouvelle conception de la vie, une nouvelle conception du travail, une nouvelle conception de l'Église, une nouvelle conception de la connaissance, une nouvelle conception de la communion, tout, du plaisir, tout a changé. Incidemment, Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul parle de conversion là. Paul parle de repentance, elle dit ça là. Voyez-vous, non? Ouais, non, direction là. Deuxièmement, c'est un sentiment de tristesse, donc éprouver de la tristesse. Troisièmement, pas oublier, c'est être conscient de son péché et le confesser à Dieu. Et pour tout ça, c'est capable de dire que nous arrivons à un quatrième élément là, qui est important pour nous-mêmes, pour moi-même. Qui c'est le détournement honnête et sincère du péché. Ou alors, se détourner honnêtement et sincèrement de son péché. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance Mot qui baille repentance là dans l'original, dans l'hébreu, il traduit justement par retourner. Mot ou gain comme repentance, c'est dans retourner le sorti. Retourner ou revenir en arrière. Hein? Alors, cela implique non seulement de se détourner, donc la repentance implique de non seulement de se détourner du mal, mais aussi de se tourner vers la justice. Hein? Se tourner vers la justice. Incidemment, l'un des signes révélateurs d'une repentance authentique, c'est l'abandon honnête et sincère du péché. C'est le détournement honnête et sincère du péché. Souvent, nous voyons la repentance est accompagnée de larmes. Les gens versent beaucoup de larmes, hein, de saintes larmes. On voit aussi, il y a des gens qui font une confession apparente de leur péché. Mais savez-vous quoi? Le fait de verser beaucoup de larmes peut être un vrai signe de repentance. On en voit tellement. Mais cela ne suffit pas. Ce sont des signes importants, mais cela ne suffit pas. C'est-à-dire que verser des larmes doit être accompagné d'un détournement de ce que Dieu n'aime pas, de ce que Dieu est, de ce que Dieu déteste, de ce que Dieu combat. Dieu ne fait pas juste haïr le mal, mais il combat le mal. OK? Cette vérité, frères et sœurs, n'a pas besoin de beaucoup de commentaires parce que elle est exprimée clairement dans la parole de Dieu. Quelle vérité encore, pasteur? Mais voilà, le fait que la repentance authentique est caractérisée par ce que j'appelle un détournement du mal. Hein? C'est tellement clair dans la parole de Dieu. Ça nécessite très peu de commentaires. J'ai trois passages pour vous. OK? J'ai trois passages pour vous. D'abord, Ézéchiel 14, verset 6b. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Ici, on a un langage de repentance. On a un langage de conversion. Revenez, détournez-vous. Deux fois, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Voilà, voilà pourquoi nous parlons de la repentance comme étant caractérisée d'un détournement du mal. C'est ce que tu appelles une renonciation au mal. Hein? C'est ce qu'on appelle ensemble, vous et moi, une renonciation au mal. Et le même Ézéchiel dira au chapitre 18, cette fois-ci, verset 30b à 31, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez un langage de conversion, un langage de repentance. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Gloire à Dieu. Et enfin, au chapitre 33, verset 11, le prophète dira de la part de l'Éternel, je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Donc, À la lumière de ce passage, vous l'aurez compris, la repentance authentique, la repentance biblique est caractérisée essentiellement par un détournement du péché, du mal, de l'injustice, de l'iniquité, frères et sœurs. Il arrive cependant, et ça c'est important, tellement vous aurez au courant, il arrive cependant que cette vérité biblique sur la repentance a souvent entraîné une certaine confusion et même une certaine crainte, une certaine peur chez certains croyants. Des croyants qui ont tendance à se demander, est-ce que je me suis vraiment repenti? Si je commets à nouveau le péché auquel j'ai renoncé. Cette vérité amène certains croyants à se poser la question de savoir, s'il en est ainsi, pasteur, est-ce que mes échecs spirituels indiquent que je ne suis pas repentant, que je ne suis pas converti, que je ne suis pas chrétien, que je ne suis pas chrétienne? Voici ma réponse. Voici ma réponse. C'est très important. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Tout dépendra de la situation de chacun. OK? Parfois c'est oui. Le fait d'être tout le temps aux prises avec un péché auquel vous avez renoncé, ou bien le péché en général que vous avez renoncé, de l'embrasser tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça peut vouloir dire, ça peut traduire une absence de salut. Oui, ça peut être ça. Mais cela ne veut pas nécessairement dire cela. C'est chaque monde avec bon Dieu lui, cap connaît. Les trois mondes cap connaît. Bon Dieu, Satan, monde non. Ça va lui dire ça. Frères et sœurs, c'est peut-être avec ça que va terminer. Ou même avec moi, nous sommes appelés à réaliser des progrès spirituels. Hein? J'en ai parlé, je l'ai enseigné. C'était ma dernière thématique là. Non, c'était ma dernière, non, la dernière, l'avant-dernière thématique, la maturité spirituelle. Okay? Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Hein? Nous sommes grandis à progresser en sainteté, en sanctification. Nous sommes appelés à grandir, j'en ai parlé, en consécration. Nous sommes appelés à grandir en maturité spirituelle. Okay? Nous sommes appelés à chercher le progrès et la croissance en prenant les moyens qu'on avait vus ensemble, hein, quand j'étudiais la maturité spirituelle, en prenant les moyens que Dieu nous donne pour grandir et en nous appuyant sur le soutien, la direction du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à le faire. Et cet objectif peut être réalisé. Si cet objectif n'était pas réalisable, bon Dieu va pas demander, nous va pas proposer objectif ça pour nous. Nous qu'a parvenu à un stade de maturité spirituelle. Nous qu'a parvenu à un stade de sanctification, de sainteté, de consécration. Nous capables. OK? Nous pouvons réussir à dominer le péché. Nous pouvons réussir par grâce, hein, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, à diminuer le nombre de péchés dans notre vie. Nous capables avec Dieu. Nous capables d'haïr la désobéissance de plus en plus. C'est possible. Cependant, chrétien qui puis mûr spirituellement, l'a prouvé chaque jour que la vie chrétienne, c'est un combat contre le péché, un combat constant contre le péché. Moi, qui t'aime suivre, je vous parle de ça, vous le dis après. Les tomber, les lever. Les tomber, les lever. Et c'est normal, il n'y a rien de grave. Li tombe, li leve. Li tombe, li leve. Paul dit, Romains 7, verset 19, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Nous ne pouvons pas utiliser passage ça comme prétexte pour une vie de péché. Non. Nous sommes en train d'expliquer une chose très importante. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, gagner une bataille, gagner un combat, mais en même temps gagner des victoires extraordinaires, gagner des défaites, mais gagner des victoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché capable venir de moins en moins prononcer la caille enfant de Dieu. C'est ça, vous avez parlé de bon Dieu qui fixait objectif sainteté sur la vie, moi-même avec. Cependant, le péché a effacé seulement dans la gloire éternelle. Pour ça, c'est pour me dire ceci. Parce que si je finis par avoir toutes caractéristiques ça, de la repentance, et nous avons l'église de Corinthe avec nous, que nous connaissons qui sont l'église charnelle, on l'église orgueilleuse, on l'église sans pareil en termes de maladie spirituelle, de malade spirituelle. Elle était reconnue comme une église chrétienne. Il était reconnu comme une église de sauver des gens sauvés. C'est le témoignage de Paul sur la vie. Et puis, moi, je dis où que repentance est caractérisée par tel bagage. Alors, il faut me clarifier ça. C'est ça qu'on va faire là. On va dire, ah, oh, mon Dieu, je connais tel monde. Ah, on ne s'est pas sauvé. Ah, je connais tel monde, on ne s'est pas sauvé. Non. C'est mon nom, bon Dieu, Satan, qui connaît. Moi, je connais que nous gagnons autorité. Nous gagnons puissance, nous gagnons provision pour nous réduire péché, nombre de péchés, la caille, pour nous dominer sous péché et non pas péché qui domine sous la vie, non. Mais il arrive que nous avons des luttes. Donc ça, c'est que, mais ça, pasteur l'a dit, qu'il faut le faire tout de suite, ça, mais ça le devait dire. Pasteur est en train de dire que même s'il connaît la repentance caractérisée par ça, il peut arriver que bon monde qui sauvé, qui va rencontrer critère ça. Non, nous n'avons pas qu'à décider qui est-ce qui est sauvé, qui est-ce qui n'est pas sauvé. C'est ça que je voulais dire. Et je voulais dire tout, puis la personne court, il dit, ah, il va sauver. Il casse à tout. Tant mieux si c'est ça. Alors, on a qu'on est pour chercher, sauver, hein, pour rencontrer bon Dieu, de vrai. Mais en même temps, que personne ne parcourir à la panique en disant, mais non, c'est ça que je voulais faire là. Mais espérer que démarche moins en clair. Hein. Il y a la lutte au péché est réelle. Si la lutte au péché n'était pas une réalité, si la lutte au péché n'était pas une réalité, bon Dieu va te promettre pour là avec nous pour les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez ça? Le bon Dieu dit, on m'a pas avec vous pour les jours jusqu'à la fin du monde. Ou est là avec vous jusqu'à la fin du monde, ou malade pareil. Ou est là avec vous jusqu'à la fin du monde, ou raseur pour bagner l'argent pareil. Ou est là avec vous jusqu'à la fin du monde, ou pour bagner caille pareil. Ouais, donc, ce n'est pas nécessairement pour ces choses-là que mon Dieu Dieu l'a pas fait couler jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas pour bagaille ça. Ce n'est pas pour bagaille mon nom dans l'amitié ou dans la relation qui voyage pour l'éternité. Ce n'est pas pour ça l'a fait couler les joies. C'est parce qu'elle connaît la réalité du péché. Il y a avec vous parce qu'on connaît une bataille, ça quoi, mener tous les jours jusqu'à la porte du ciel. C'est pour ça qu'il y a avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu n'est pas avec les parfaits. Il est avec les imparfaits qui sont en lutte, qui sont en train de travailler à leur salut. Alors voilà, il est 21 h, mais espérez que vous compreniez nuance que moi portais par rapport à d'un côté. L'homme m'a dit, mais ça qui caractérise une vraie repentance, et cependant, pas grand monde qui a envie de péché, ça ne veut pas dire pas chrétien pour ça. Ils ont devraient faire là. M'espérer que c'est clair, et puis ça va le dimanche pour GPS pour à vivre, j'en voulais. Non, non, nous sommes appelés, je l'ai dit, nous sommes appelés, hein, à lutter contre le péché. C'est ça que je devrais faire là. Alors voilà, personne ne va courir dans la confusion, ni à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, je ne suis pas sauvé? Bien entendu, chaque fois que nous tendons parole, moi, avec vous, les domaines nous ont examiné conscience. Bien entendu, les domaines nous ont examiné la vie, nous, pour nous connaître si nous avons la vérité. Même pas le personne paniquer non plus. Alors voilà, j'espère que tout a été clair. Laissez-moi, peut-être que je n'ai pas besoin de parler, ou là, je vais seulement interrompre l'enregistrement, parce que nous avons un sujet presque controversé là.